Bonjour, vous êtes bien dans notre émission Underscore. Cette semaine, inutile de vous embobiner. Après tout, réglé comme du papier à musique, découvrons ensemble ce que l'audio numérique a à nous révéler.
Bonjour à Mémémane.
Bonjour Cécile, bonjour Doudou.
Salut Mémémane, c'est Cécile.
Bonjour amis auditeurs. Et ben oui, cette semaine, c'est une certitude, nous allons travailler sur la station de travail audio numérique, un sujet proposé par Melbel qui nous a proposé ce sujet. Merci encore pour tes talents d'écriture. Mais tout de suite, passons à l'actualité.
Zalactu, qu'est-ce qu'on a ? Ah, de Beyond 10 Buster arrive le 6 juillet. Elle succédera donc à Stretch. Alors rappelons que les noms de code des distributions, de la distribution Debian, toutes les versions en fait des personnages de Toy Story.
Firefox va lancer une offre premium, mais rassurez-vous, le navigateur lui-même restera libre et gratuit. Le but est de diversifier leurs sources de financement et du coup dépendre un peu moins de Google, et on espère, hein, en proposant des services supplémentaires à ceux qui le veulent, comme du stockage en ligne ou un VPN.
Les navigateurs web utilisant le moteur de Chrome menacent de forquer. Suite à l'annonce de Google de supprimer l'API actuellement utilisée par les greffons bloqueurs de publicité, plusieurs entreprises, dont Opera, ont menacé de forquer pour conserver cette API dans leur version. Microsoft, qui il y a peu a annoncé l'abandon du moteur Edge en faveur de celui de Chrome, n'a lui rien commenté.
La Guilde des Vidéastes, une association professionnelle pour les youtubeurs. C'est la première association représentant les youtubeurs professionnels pour défendre leurs intérêts.
Le CERN dit adieu à Microsoft et passe au libre. On aurait pu penser que c'était pour des valeurs du logiciel libre, mais en fait c'est une question de sous uniquement, semble-t-il. Enfin, c'est toujours ça. Hein.
Oui.
Le site de soutien au référendum sur la privatisation d'ADP fait polémique. Mal conçu, compliqué à utiliser, plein de bugs, certains se demandent même si ce n'est pas fait exprès pour décourager les soutiens à cette pétition. De plus, se posent des questions sur l'utilisation des données, voire sa récupération par d'autres, puisque la liste des soutiens est publique et contient des informations pas forcément nécessaires, comme les autres prénoms. En tout cas, on a moins de 9 mois pour s'inscrire si on le souhaite.
Une nouvelle faille dans les barrettes, Ramblid. Reprenant le principe de Rohammer, mais sans nécessité de modification permanente, donc affectant aussi les RAM ECC, donc celles avec des codes de correction qui d'habitude récupèrent les données, elle permet de fuiter de l'information. Aïe, aïe, aïe.
Comme quoi, hein, mais...
C'est
permanent, hein, ça n'arrête pas.
Voilà, c'est tout pour les actus, on fait une petite pause et on se retrouve pour le sujet du jour.
À tout de suite. Eh bien, cette pause musicale nous a ramené encore dans les musiques chiptune que j'affectionne de la démoscène, Crust de Hans Zimmer. Donc voilà, nous allons passer tout doucement au sujet du jour.
Un jingle.
Le sujet. Et le sujet nous a été proposé par notre amie Melbel, qu'on salue bien de là-haut dans la Belgique, qui nous écoute aussi à travers les aires numériques. La station de travail audio numérique peut sembler banale dans le monde technologiquement avancé d'aujourd'hui, mais cette technologie a connu une longue évolution depuis les débuts de la bobine analogique. L'existence et l'évolution de la station de travail ont permis aux musiciens non seulement de créer de la musique de manière plus efficace, mais également de déclencher une révolution créative qui a permis de créer un mouvement et qui a permis de créer une génération de nouveaux genres de musique qui n'existaient pas. Avant, la station de travail audio numérique. Le processus d'enregistrement est l'un des principaux objectifs de la station de travail audio numérique, à part la composition et son utilisation dans le processus de création littéraire. Avant l'époque de la station de travail, les musiciens, les studios et les ingénieurs étaient limités à leur technologie disponible qui consistait à enregistrer de l'audio sur un magnétophone à bobine. Jusqu'en 1970, c'était la norme.
Ouais, il y a eu le 4 pistes, et puis le 8 pistes, et puis le 16 pistes, mais c'était quand même de l'analogique.
Tout à fait. Bien que certains avancent que la musique sonnait mieux en raison de son inhérence à l'enregistrement sur bande, le processus n'était pas dépourvu de ses caractéristiques notables qui, selon certains, ce n'était pas souhaitable. Le bruit et la distorsion étaient deux objets communs qui étaient presque toujours présents et considérés comme certains comme une nuisance. Certains, d'autre part, ont vénéré cet aspect et ont trouvé des moyens d'utiliser ce trait pour en faire partie, pour faire en partie intégrante du processus de création. Une remarque à propos des enregistrements sur bande et du manque d'audio enregistré par ordinateur est l'absence d'automatisation. Le processus de réglage du périmètre guidé par un ordinateur, l'automatisation de la station de travail a remplacé l'approche « tout main sur le pont » de la table de mixage. Avant l'automatisation, les studios devaient essentiellement faire appel à d'autres personnes, à part les ingénieurs sur site, pour faire fonctionner manuellement une table de mixage et régler les tirettes, les boutons et tout autre paramètre devant être ajusté en temps réel, le mélange avait lieu. Le processus était communément appelé « ajuster les tirettes ». La création
ah oui, c'est comme quand je bouge le curseur là comme
oui, ça. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. La création de station de travail a apporté une nouvelle façon de gérer l'audio multipiste qui permettait à l'utilisateur de créer, d'enregistrer et de mixer et de même de maîtriser un son professionnel de haute qualité directement dans l'ordinateur plutôt que sur des machines coûteuses sur bande. Cela pouvait être réalisé tout en conservant une sortie haute fidélité. Une station de travail audio numérique est une console de table de mixage basée sur un ordinateur, comme on le voit dans un grand studio. Cependant, au lieu d'avoir une table de mixage volumineuse et coûteuse fabriquée par un fabricant renommé, tous les composants sont conçus pour fonctionner à l'intérieur d'un ordinateur, et même affichés via l'ordinateur, le moniteur. Ce système ne repose pas sur une bande, mais repose sur des microprocesseurs.
La première étape de la station de travail audio numérique était connue sous le nom de la station de travail audio numérique intégrée. La station de travail audio numérique consistait en une console de mixage, une surface de contrôle, un convertisseur audio et un stockage de données sur un seul appareil. L'autre type actuel est le logiciel. La station de travail audio numérique a quatre composants de base, un ordinateur, un convertisseur de son, un éditeur audio numérique et au moins un périphérique d'entrée. L'ordinateur est l'hôte de la carte son et du logiciel qui traite les informations audio. Cela vous permet d'enregistrer dans un format multipiste, en mono ou en stéréo, d'éditer toute la piste et de les mélanger et de les maîtriser pour créer une composition musicale professionnelle de haute qualité, le tout sur votre ordinateur. Les premières tentatives de création d'une station de travail numérique ont lieu à la fin des années 70. Comme le matériel informatique était très limité, ces tentatives étaient lourdes et n'ont pas donné de résultats durables. Non seulement le prix du stockage était élevé, mais la vitesse du disque et la puissance de traitement étaient extrêmement lentes. SoundStream est la première société à avoir tenté le premier logiciel de ce genre et s'appelle le système de montage numérique. En 1979, une société appelée Fairlight est née et a développé l'instrument de musique par ordinateur. Cet échantillonneur et synthétiseur numérique développerait ensuite un système d'enregistrement sur disque dur et une station de travail audio numérique de la série MFX. Bien que le CMI n'était pas un logiciel... c'est compliqué à dire là. Il disposait. Voilà, j'ai dû y avoir des copier-coller au milieu, Matt Bell. Donc, mettez pas un logiciel. Il disposait d'un moniteur CRT à exécuter un système d'exploitation appelé QDOS. Ah, tiens, ça me rappelle un truc, ça. L'une des caractéristiques remarquables à ce jour de nombreuses entreprises est le logiciel PageAir du CMI, un séquenceur de motifs graphiques en temps réel. Certains disent que cela a cédé la place au séquençage MIDI actuel. Au début des années 80, les entreprises ont vraiment commencé à mettre en avant l'idée du logiciel. En particulier, maintenant que les ordinateurs tels que Apple II, Atari ST ou le Commodore Amiga disposaient d'une meilleure puissance de traitement et pouvaient gérer le travail d'édition audio numérique. Aujourd'hui, beaucoup de plateformes logicielles renommées avaient des racines modestes. Pro Tools, le standard désormais reconnu par Avid, est un éditeur audio appelé SoundDesigner par DigiDesign. Ce logiciel était principalement utilisé pour éditer des échantillons, pour échantillonner des claviers tels que l'IEMU Emulator 2, l'Akai S900. SoundDesigner a finalement été fourni avec du matériel compatible Mac pour former SoundTools. En 1985, la société Opcode, fondée par Dave Oppenheim, a été créée. En 1986, la société avait publié deux produits, le MidiMac Sequencer et l'interface MidiMac pour ordinateur Macintosh.
Mark of the Unicorn est un autre des premiers développeurs avec son logiciel appelé Compositeur Professionnel. À la suite de cela, un séquenceur musical appelé Performer est apparu. Performer a pleinement exploité le nouveau standard MIDI, ce qui en fait une plateforme très recherchée pour les utilisateurs de synthétiseurs. Ce logiciel mènera éventuellement à Digital Performer, qui est encore très utilisé à ce jour. Steinberg Research est arrivé vers 1994, lorsque le Commodore 64 était l'un des principaux adversaires de la première scène musicale. Leur premier produit, baptisé Multitrack Recorder, aurait vendu moins de 50 exemplaires. Le concept a cependant été rapidement transformé en leur prochaine plateforme intitulée Pro 16. Le Pro 16 était un multiséquenceur 16 pistes de base avec une interface claire d'une page et un enregistrement en temps réel. Après le Pro 16, le Pro 24 a suivi Cubit. En 1992, Steinberg vit enfin l'arrivée de Cubase, l'un des standards de l'industrie. Imagic est un autre concurrent important sur le marché de la station de travail audio numérique qui a pris ses racines sur le marché de l'enregistreur audio. Imagic, une société de logiciels basée en Allemagne, était connue pour son séquenceur de musique, musique ancienne appelé Creator. Creator a été suivi par Notator, qui fonctionnait sur la plateforme Atari ST. Notator Logic a été lancé en 92 pour Atari, Macintosh et Windows. Imagic a rapidement supprimé le notateur du nom et a été repensé avec un nouveau look et de là est sorti Imagic Logic. En 2002, Apple a acheté le logiciel et cessé toute assistance Windows pour le programme. Aujourd'hui, Logic n'existe encore que sur la plateforme Apple et est largement considéré comme l'une des stations de travail audio numérique les plus populaires. Mac versus PC, les débuts. Jusqu'en 1993, tous les enregistreurs, la station de travail audio numérique, fonctionnaient sur des ordinateurs Atari, Commodore ou Apple. Des programmes tels que Performer, Creator, Process, Vision, Studio, DXIS, Sonic Solution et SoundDesigner étaient tous dépendants d'Apple. Samplitude Studio a été le premier produit introduit sur Windows. Avant 1992, ce logiciel existait comme éditeur audio pour le Commodore Amiga. D'autres sociétés ont également commencé à émerger, telles que IQS, un logiciel de qualité innovante connu aujourd'hui sous le nom de SAW Studio. Soundscape Digital Technology, acquis par Mackie les enceintes, puis par SSL, SADI, Echo Digital Audio et Spectral Synthesis. Aujourd'hui, il existe une pléthore d'options lorsque l'on parle d'une station de travail. On pourrait facilement dire que le marché actuel en est saturé. Plusieurs fois, nous verrons l'annonce d'une nouvelle station de travail suivie d'un titre de magazine ou de blog. Avons-nous besoin d'une autre station de travail? Qu'est-ce qui différencie une station de travail? La concurrence est le nom du jeu, et même si la station de travail audio numérique peut être le leader du secteur, il faudra toujours plus de fonctionnalités, un traitement audio plus rapide, un routage de modulation supplémentaire, un montage plus rapide des échantillons, une utilisation moindre du processeur, etc. Il va sans dire que la station de travail audio numérique est bien implantée sur le marché actuel de l'enregistrement assisté par ordinateur et que son évolution ne s'arrêtera pas là. Cela restera un outil qui accompagne l'homme et jamais l'inverse. Alors, en avant la musique !
Oui !
Eh bien, merci Med Bell pour nous avoir proposé son sujet qui m'a rappelé avec les noms de tas de logiciels que j'ai côtoyés.
Bah, coucou Fabugno, hein, qui bosse toujours avec Cubase sur son Falcon.
Oui, non, mais c'est vrai qu'après, voilà, Pro Tools, la référence, c'est clair qu'à ce niveau-là, voilà, c'est des références dans les stations.
Bah, ils connaissent.
Sur Amstrad, Ecosoft, ESAT Software. Non, ça va faire rigoler les... C'était un sampler en 1 bit.
Wow. Ah oui, c'est pas mal. Ouais.
C'était bien crado. Hein.
Ouais.
Il y a eu quand même une tradition aussi en France. Hein. Il y a l'IRCAM qui avait des stations de travail. Je me rappelle de certains numéros de STMAG où il parlait de la station de travail audio de l'IRCAM aussi. Ouais.
Puissant. Ouais. Petite pause.
Une petite pause et puis on se retrouve après pour l'agenda. Thank you.
C'était Sushi Boys de Jazz Cat. Pour ceux, les adorateurs d'Amiga 500, je crois que ça vient d'une démo. Et oui. Alors, nous allons passer à l'agenda.
Ah, il y a un jingle.
Et oui.
L'agenda.
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Qu'est-ce qu'on a ? Projection du film La Bataille du Libre.
Ah, ça y est.
Ouais, donc c'est le film de Philippe Borel dont je vous ai déjà parlé, La Bataille du Libre.
Oui, on
donc
est dedans.
Ça, c'est le mardi 2 juillet de 19h30 à 22h30 à Lyon, donc à l'Alter Hostel 32 quai Arloin à Lyon, avec une participation aux frais de 5 euros. Et puis alors c'est prévu qu'on arrive à faire ça dans la Drôme, mais on sait pas encore quand. On va essayer de caser ça.
Alors, exposition, et si c'était vrai, de la fiction à la réalité, quand en 1864 Jules Verne envoie trois hommes sur la Lune dans son roman De la Terre à la Lune, il n'imagine sans doute pas que cet exploit deviendra 105 ans plus tard une réalité. Dans la littérature d'anticipation et les œuvres cinématographiques ou télévisuelles de science-fiction, les exemples de prédictions ne manquent pas. Cette exposition vous offrira un panorama des innovations qui ont été imaginées depuis le 19e siècle et qui s'inscrivent aujourd'hui dans notre vie contemporaine. Donc ça se passe à la médiathèque de Porte-les-Valences du 2 au 27 juillet 2019. Donc
c'est
voilà.
Pour tout public.
Une histoire de pixels. L'association Gamestalgie propose de découvrir ou redécouvrir la culture vidéoludique dans une ambiance riche en pixels. Ce sera le samedi 6 juillet à 18h à Locos Toujours, 8 rue Gaston Rey, Valence.
Et ouais, mais sinon on a aussi une Amiga bouffe. Comme d'habitude, on vient avec nos vieilles machines et on mange bien et puis on prépare la prochaine alchimie. Donc ça, c'est aussi le samedi 6 juillet à partir de 16h. A priori, c'est à la salle des fêtes de Clérieux.
Mon robot en récup, donc atelier adulte-enfant, atelier de fabrication créative où chaque enfant accompagné d'un adulte invente et personnalise un mini-robot à partir des objets de récupération et de petits matériels électriques. Donc c'est pour les 5-7 ans, 35 euros robot compris, avec 5 participants maximum. Ce sera le 10 juillet de 10h à 12h au 8 rue Courcomer. Au Fab Lab de Cray.
Voilà. Et alors ça, c'est juste un des ateliers qu'ils ont prévus en juillet. Il y en a plusieurs pour d'autres âges. Donc, n'hésitez pas à regarder leur site.
Nous allons frotter la boule de cristal.
Qu'est-ce qu'on a ?
Alors, jardinier de Wiki. Mais qu'est-ce qu'on a là ? Des fuchsias de Magellan ? Non, des fichiers de Magia.
Gamer, j'ai trop joué et je me suis pas lavé et j'ai attrapé les boutons.
Demo Maker. Embarrasse-moi, idiot, c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'une démo.
Codeur, on pourrait faire des matchs de rugby sur des trains qui avancent à pimenter la chose. On appellerait le rugby on rail.
Musicien, so une partition dans ma dos.
Procrastinateur, il est venu le temps des retardataires.
Ah oui, c'est...
Ah oui, pardon. Il est venu le temps des retardataires.
Ah ben, on est presque en retard.
Oui, oui, tout à fait. Alors, merci amis auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de notre émission du jour. La semaine prochaine, peut-être la dernière émission de la saison.
Et cette semaine, c'était la 150e.
Oui.
Youpi.
Youpi.
Allez, à la semaine prochaine.
À bientôt. Bye bye.